Une vie, une œuvre, Marie Bonaparte, 1882 Saint-Cloud, 1962 Gassin. Elle est surnommée Mimi dans la villa de Saint-Cloud où elle naît. 4 semaines seulement, puis sa mère, Marie-Félix Blanc, meurt d'une embolie. Sa grand-mère paternelle prend en charge son éducation et son père, le prince Roland Bonaparte, géographe et botaniste, n'apparaît que sporadiquement. La fillette confie ses secrets dans 5 petits cahiers à couverture noire cirée qu'elle appelle ses bêtises. Elle a 20 ans quand elle se marie avec Georges de Grèce, dont elle a 2 enfants, Pierre et Eugénie. C'est après la mort de son père qu'elle rencontre Sigmund Freud, qui l'analyse et lui conseille plus tard de ne pas entreprendre des études de médecine, préférant qu'elle se consacre au développement de la psychanalyse en France. C'est ainsi qu'en 1926, elle fait partie des membres fondateurs de la Société psychanalytique de Paris, puis, 1 an plus tard, finance la Revue française de psychanalyse et traduit les textes de Sigmund Freud qu'elle sauvera des griffes du nazisme. Hélène Frappa signe, avec Angélique Thibault, Une vie, une œuvre, Marie Bonaparte.
Back to town. This is Marie Bonaparte in the waiting room. Waiting for her analytic hour. These are just pictures of the waiting room, the house where my father was born. That's a Fujiyama.
Je suis née en juillet 1882. J'ai perdu ma mère juste après ma naissance. Et j'allais mourir très jeune, j'en avais la certitude.
This is my father's desk.
Je pense que cette opération a réveillé des terreurs de ma jeunesse. Entre 16 et 20 ans, j'ai été très malade. J'allais mourir, j'en avais la certitude.
Ça vous effrayait?
Parfois, oui. Je faisais des cauchemars.
His daily notes.
Quel cauchemar?
Les cauchemars de ma petite enfance. Mon cercueil était jeté à l'eau et broyé par les requins. On m'étouffait, on m'empoisonnait en m'enfonçant des chandeliers dans la gorge.
Qui?
Mon père, ma grand-mère, parfois Mimo, ma gouvernante. Mais la plupart du temps, j'acceptais mon sort. C'était mon destin comme ma mère.
Beginning psychoanalytic society gathered for the first years.
En fait, l'histoire, elle commence en 1910. Marie Bonaparte a alors 15 ans. Elle est malade, elle est couchée dans la chambre de sa mère, qu'elle a perdu à 1 mois et demi.
Thierry Florentin, psychanalyste, auteur de La folie Edgar Poe.
Et son père, Roland, qui était un personnage assez extraordinaire. C'était un grand intellectuel. Il faut que vous vous rendiez compte que dans l'hôtel qu'il a fait construire, avenue d'Iéna, qui est maintenant le Shangri-La, on peut aller y prendre un verre si on veut, il avait fait aménager une galerie de 120 mètres de long où il avait mis près de 180 000 ouvrages. 10 000 revues, autant de cartes. Donc un intellectuel totalement, qui avait absolument tout laissé sur le plan de l'organisation matérielle à sa propre mère, Nina, la grand-mère, qui était une femme assez redoutable pour Marie.
Tu n'as pas besoin d'être jolie, ma Mimi, tu es riche.
Ça me fait penser que je détestais ma grand-mère.
Non.
C'était la fille d'un ouvrier. Son mari, le prince Pierre, était une tête brûlée, un coureur de jupons. Elle a tout accepté par amour. Lorsqu'il a assassiné Victor Noir, elle a remercié les terres pour le défendre. Elle était forte. Une vraie femme phallique.
Le père de Marie Bonaparte, c'est Roland Bonaparte, qui s'est marié avec Marie-Félix Blanc, qui était richissime.
Jean-Pierre Bourgeron, auteur de Marie Bonaparte et la psychanalyse, à travers ses lettres à René Laforgue et les images de son temps.
Elle est morte après l'accouchement de Marie. Pierre Bonaparte était marié avec Justine et Éléonore, dite Nina Ruffla.
Pierre Bonaparte, qui était le grand-père donc de Marie, et oui, qui avait effectivement pour habitude de rebaptiser toutes ses femmes, car il en eut un certain nombre, Nina,
voilà,
qui était plus un prénom corse. Donc quand elle n'était pas corse, il les corsisait.
C'est ça.
Un peu déchirant, mais ça va avec la chanson.
Et l'arrière-grand-père, c'est Charles, Charles-Marie Bonaparte, qui était marié avec Maria Laetitia Rabolino. Ça, c'est le Corse. Et Charles-Marie Bonaparte était, par rapport à Napoléon, le père 1769 Napoléon et 1746 Charles-Marie.
Oui. Marie Bonaparte s'est toujours intéressée aux assassins, de façon générale.
Alix Lemel, auteur des 200 clitoris de Marie Bonaparte.
Elle estimait que son arrière-grand-oncle, donc Napoléon Bonaparte, était un assassin monumental. Son père Roland, elle le soupçonnait de s'être arrangé pour que sa femme, donc la mère de Marie Bonaparte, meure. Et peu de temps avant qu'elle meure, il lui avait fait signer un testament qui lui léguait sa fortune à lui. Donc voilà, c'était. Elle avait l'impression d'être entourée d'assassins et elle aimait ça. Et quand elle était gamine, elle voulait absolument devenir médecin. Pourquoi ? Pour disséquer des corps.
Donc Napoléon Bonaparte, l'empereur, était son arrière-grand-oncle.
Marie Bonaparte, c'est l'arrière-petite-nièce de l'empereur. Et sa mère va décéder quelques semaine après sa naissance.
Rémi Amouroux, professeur à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne,
en difficulté respiratoire,
auteur de Marie Bonaparte, entre biologie et freudisme.
Donc toute une série d'événements depuis sa naissance vont en faire une enfant considérée comme malade, comme souffrante, qui va contracter aussi une forme relativement bénigne, mais une forme de tuberculose quand même, qui va amener sa famille, ou plutôt son père et sa grand-mère paternelle, puisqu'elle va être élevée par son père et sa grand-mère maternelle, eh bien, elle va être gardée au chaud dans la maison et ne pas être confrontée au monde extérieur. Ça va construire chez elle probablement une appréhension, peut-être, et une envie aussi de découvrir le monde extérieur, dont elle va être privée une grande partie de son enfance, et ce qui va probablement avoir une grande influence sur ses intérêts et aussi sur ses activités, puisqu'on sait par exemple qu'elle écrit des carnets lorsqu'elle est enfant, elle les écrit en anglais et en allemand pour que sa grand-mère paternelle, avec qui il a des relations difficiles, ne puisse pas les lire.
Oh, cher moi, quel terrible ennui se met à prendre mes leçons. Voilà que j'ai un, deux, non pas deux, mais toute une colonne et demie de mots avec leur sens à apprendre par cœur.
Ces carnets vont.
Je voudrais que les mots n'eussent pas de sens.
Ils vont avoir un rôle extrêmement important puisqu'ils vont être réutilisés par elle et par Freud pendant son analyse.
Eh bien, je suppose qu'il me faut commencer à les apprendre.
Parce qu'à travers ces carnets, finalement, Marie Bonaparte va explorer son histoire infantile, à partir des fantaisies qu'elle a lorsqu'elle est enfant.
P-R-I, pri, S-O-N, son, prison, un endroit où les gens sont enfermés. Pourquoi ne dit-on pas tout de suite école ? Ça, c'est une prison, j'en suis sûre. P-U, pu, N-I-R, nir, punir. Je sais le sens de ce mot sans le livre. Oh, cette vilaine leçon, je n'arriverai jamais à l'apprendre. P-L-A-I, plaît, S-I-R, zir, plaisir, cela qui me plaît. Oui, je sais que plaisir veut dire se balancer à des barrières et jouer à la balle. Le 20 janvier 1890. J'ose dire que si John Grant m'entendait, il dirait que plaisir veut dire avoir un livre nouveau. Lire, 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 dessiner, dessiner, dessiner. Je déteste lire. Quand je serai devenu un homme, je n'ouvrirai jamais un livre. Oh, comme je désirerais être un homme à présent. Le garçon paresseux devient un homme.
Mmh.
Il y a Mimo, il y a Gragra, et puis il y a aussi une qu'elle surnomme Nounou, tout simplement.
Donc solitude de Marie, maladie, couchée dans la chambre de sa mère, qui n'avait quasiment pas changé depuis son décès. Et le père a l'idée, saugrenue, de lui faire lire Edgar Poe. En pensant qu'en effet, ces histoires de mères mortes revenant, naviguant entre la mort et la vie, entre, entre deux univers, vont l'aider à apaiser la douleur de la mort de sa mère. Elle se met à lire le Scarabée d'or, elle se met à lire Morella. À Ligeia, elle s'arrête, elle peut plus. Ligeia, c'est vraiment l'histoire d'une femme morte qui prend la place d'une vivante. Une histoire d'amour, d'ailleurs. Morella, pareil, la place d'une mère morte qui prend la place de sa fille vivante et qui en meurt. Elle oublie, elle range Edgar Poe. Elle oublie, elle commence son analyse des années plus tard, à 40 ans, 1926. Et là, elle retrouve ce souvenir-là dans l'analyse qu'elle a avec Freud.
Le lapin sans peau, le lapin, dans la nuit, les cauchemars, les fantômes, le lapin.
Elle amène ses textes, c'est-à-dire qu'elle a 7 ans, elle se met à écrire.
Il était une fois trois fantômes blancs. Ces fantômes un jour allèrent à un bal du lapin sans peau. Monsieur Monson et là les fantômes rencontrèrent les cauchemars. Le bal était à minuit pour les fantômes et les cauchemars qui ne pouvaient pas aller si ce n'était pas à cette heure. Les cauchemars avaient de belles robes et les fantômes aussi. Ces fantômes avaient des pouvoirs et voulaient effrayer Madame Reichenbach et furent contraints de s'en aller. Les cauchemars, les fantômes, Madame Reichenbach, dans la nuit.
En anglais et en allemand, ses carnets, elle va appeler ça ses bêtises. Quatre carnets, 2000 pages, pour échapper à l'emprise de sa grand-mère. Et elle va les amener à Freud. Donc l'analyse de Marie Bonaparte avec Freud se fait sur ses textes, sur ses contes, et Freud a cette capacité à lui reconstituer une partie de son enfance simplement à partir des nouvelles que Marie Bonaparte va lui apporter. Et lui dit, voilà, ici, vous avez eu un moment de séduction infantile, il faut que vous alliez le vérifier auprès des protagonistes.
Oui, révéler à Marie qu'elle a assisté fréquemment à des rapports sexuels de l'une de ses nounous, ce que Marie va contester. Elle va d'abord refuser cette interprétation, et c'est des échanges entre Freud et Marie qui vont l'amener petit à petit à reconnaître, effectivement, et à pouvoir comprendre que non seulement c'est possible, mais que ça s'est réellement passé.
Bon, la nouvelle, c'était un crayon dans la bouche. Aujourd'hui, ça nous fait rire. Mais dans ces années-là, c'était pas si simple que ça. Elle va voir cet homme qui s'appelait Pascal, qui était le demi-frère de Roland, que Roland avait par charité employé comme piqueur de chevaux. Elle lui dit, écoute, j'ai besoin... Bon, l'homme a 80 ans, elle lui dit, écoute, j'ai besoin que tu me racontes un peu ce qui s'est passé. Il est réticent, il dit, moi, je veux rien en savoir, j'ai 80 ans, je veux qu'on me laisse mourir tranquille. Elle retourne voir Freud. Freud lui dit, allez, insistez. Demandez-lui ce qui s'est passé. Et effectivement, Pascal se met à table et lui dit, ben oui, nous avons eu un certain nombre de relations sexuelles, de fellations notamment, quand tu étais à ton berceau avec les nounous.
J'avais écrit ces cahiers entre 5 et 10 ans. Je les avais oubliés. J'ai eu du mal à les relire comme c'était une autre qui les avait écrits.
Mon, je voudrais essayer de pleurer. Triste, ne trouvez-vous pas? Pleurer, triste. Pourquoi? Si je le dis, on dira que c'est pour ne pas travailler. De la musique, je veux jouer, je veux. Oh, on dira que c'est pour ne pas travailler. Oui, je voudrais pleurer, pleurer, pleurer. Non, pas la bataille des fleurs, si je suis si tellement triste. Je suis triste, c'est parce que je suis triste. Pauvre de moi ? Non, si triste, jamais je n'ai été. Je veux pleurer, je veux Mimo, c'est elle qui me consolera. Ne jouez pas ça, ça me rend triste. Madame Preveux aussi me consolera, oh. C'est dans ce livre que je mets toutes les choses qui peuvent me soulager. Très triste je suis. Oh papa, console-moi, je travaillerai, je le ferai. Triste jamais, je ne fus aussi triste. Oh, je veux dormir. Ne me parlez pas ou je vais éclater en larmes, éclater en sanglons. Je suis sûre que c'est ce qu'on dira si je le dis. On dira que c'est pour ne pas travailler. Oh, ma jambe, elle me fait très mal. Non, je veux me surmonter. Oh, triste je suis, je le veux le dire.
Du côté de son père, de l'ascendance des Bonaparte, mais du côté de sa mère, elle est issue d'une famille immensément riche, une famille blanc, qui a fait fortune dans les casinos, et notamment celui de Monte Carlo. Il y a une histoire aussi compliquée par rapport à l'héritage. Hein. On sait qu'au moment du mariage de ses parents, son père, plutôt que d'emmener la mère de Marie à la cérémonie, l'aurait emmené d'abord rédiger un contrat qui assurait finalement que l'ensemble de l'argent reviendrait au père, à Roland, même s'il se passait quelque chose. Et il va se passer quelque chose puisque la mère de Marie décède en couche.
Roland, donc, qui était un petit peu quand même à côté de ses pompes, embauche un secrétaire qui s'avère être un bandit corse qui s'appelle Léandri. Et puis, la jeune Marie, flattée un peu par ses compliments, se met à lui écrire des vraies lettres d'amour.
Alors c'est l'histoire avec Léandri, qu'elle appelle le piqueur corse, qui en fait va la séduire. Elle a 16 ans. Et il obtient des lettres. Il obtient des lettres enflammées. Et ces lettres, il va s'en servir pour la faire chanter pendant près de 4 ans, jusqu'à sa majorité, obtenant ainsi de l'argent de Marie. Marie est obligée de cacher ça à son père, une sorte de près de 200 000 francs, une somme extrêmement importante. Et il va falloir, en fait, l'intervention des avocats du père. Elle va du coup l'avouer à son père. Donc à nouveau, en fait, ce point que son argent, indépendamment du fait qu'elle est riche et que c'est un point tout à fait qui lui ouvre des choses, va jouer un rôle dans son développement à elle aussi, dans la manière, ou plutôt dans le rapport qu'elle a ou que les autres ont avec elle.
Ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Elle sait... Bon, alors, Marie Bonaparte, c'est à plusieurs reprises nommée elle-même comme la dernière des Bonaparte.
Oui. Alors, ben, parce qu'elle est princesse, mais c'est pas par les Bonaparte, parce que elle n'est pas empereur. Non, c'est parce que elle est mariée à Georges de Grèce. Donc elle est princesse de Grèce.
Je pense que la rencontre avec Georges de Grèce finalement se passe mieux que prévu. Élancé, blond, avec une longue moustache blonde comme son père, un nez droit, des yeux bleus de ciel qui sourit. Peu de cheveux seulement, il est chauve. Qu'importe. Il est grand, beau, blond, et surtout il semble si bon, si bon. De plus, il paraît un peu souffrant, ce beau géant, ce qui le rend encore plus touchant, plus sympathique. Il a maigri, beaucoup maigri, pâle, les yeux tirés, on dirait qu'il se relève d'une fièvre typhoïde. Elle n'est pas particulièrement heureuse de toutes ces démarches que son père et sa grand-mère lui souhaite, à savoir faire un bon mariage. Mais c'est un homme qui va savoir la séduire, l'intéresser. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle restera très attachée à son mari, très attachée amicalement. C'est ça qui est particulier, c'est que visiblement, même s'ils ont deux enfants ensemble, il n'y a pas une grande satisfaction dans le lit conjugal. Il est attiré par les hommes, et attiré en particulier par son oncle, Valdemar, qui est un amiral de la marine, mais Marie nous dit à plusieurs reprises que c'est un amour chaste. On peut imaginer qu'on a affaire vraiment à un homme qui a une relation très particulière, très ambiguë, avec son oncle et qui semble avoir trouvé une forme d'équilibre dans un ménage qui est un ménage étrange. Les enfants de Marie appellent Valdemar Papa 2, Papa 2. C'est quand même assez étonnant. Ça fait un peu ménage à trois.
Eugénie.
Tu parles que de toi, tu penses qu'à toi. Papa, moi et Pierre, on peut mourir, tu t'en fous.
Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est faux et c'est injuste. Depuis votre naissance, j'ai tout fait pour ton frère et toi. Je vous aime plus que tout au monde.
Et papa?
Il faut regarder les choses en face, Eugénie. Ne pas avoir peur de les nommer, sinon elles vous rongent. La vraie femme de ton père, c'est Valdemar. Je t'ai parlé brusquement, mais je ne t'apprends rien, n'est-ce pas?
Tu as dit ça à Pierre?
Non, mais je lui dirai. Je vous ai toujours dit la vérité.
Quand ça t'arrange.
Finalement, Marie est d'abord l'élève de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, c'est un homme plutôt du 19e. Elle le rencontre, il a près de 70 ans. C'est une sorte de vulgarisateur de génie qui s'intéresse autant à la psychologie, qu'à la physique, qu'à la médecine, qu'à l'équitation, qui prétend avoir découvert la relativité avant les Curie, qui prétend avoir découvert ce qu'il appelle l'inconscient freudique avant Freud. Et auprès de Le Bon, elle va fréquenter toute une série de scientifiques qui vont l'intéresser à différentes choses. Et Le Bon va être le premier qui va vouloir lui faire écrire un livre. Et donc elle va auprès de Le Bon faire ses armes intellectuelles. Et Le Bon a une conception de l'anthropologie notamment, et des rapports entre la biologie et la psychologie, qui est tout à fait classique au XIXe siècle, hein, avec l'idée que la biologie et l'évolutionnisme est quelque chose qui permet de comprendre beaucoup de choses, que Marie va reprendre et qui, à mon avis, est indispensable si on veut comprendre les travaux de Marie. C'est-à-dire que si on ne fait de Marie qu'une psychanalyste, on manque et on ne comprend pas et on en fait une mauvaise psychanalyste parce qu'on ne comprend pas qu'une bonne partie de ses travaux en fait, s'inscrivent dans la filiation de ce premier mentor, Gustave Le Bon. Sa vraie formation intellectuelle, son véritable mentor, ce n'est pas Freud, c'est Gustave Le Bon. Son premier texte qui a marqué et qui encore aujourd'hui marque les gens qui s'intéressent à Marie Bonaparte, c'est un texte qu'elle signe sous un pseudonyme de A.E. Narjani. Ce texte, il est publié en 1924 dans une revue belge de médecine, un texte qui s'intéresse à la frigidité de la femme et aux causes anatomiques de la frigidité.
Narjani.
Couloir de l'immeuble et ensuite traverser la cour jusqu'à la maison au volet rouge.
Narjani.
Qui est Narjani, Alix Lemel?
Narjani, c'est le pseudo qu'a choisi Marie Bonaparte pour écrire cet article sur ce qu'elle estime être la jouissance féminine. Elle prétend avoir demandé à 200 femmes de lui permettre de mesurer la distance entre leur clitoris et l'entrée de leur vagin. Et à la suite de cette expérience, elle en a conclu que plus la distance était grande entre le clitoris et le vagin, et moins la dame avait des chances d'avoir un orgasme, enfin un orgasme vaginal, parce que c'est ça qu'elle appelle la frigidité, c'est ne pas avoir d'orgasme vaginal. Et elle s'en prend donc là-dedans à Freud, et elle dit qu'il a voulu aligner la sexualité de la femme sur celle de l'homme, et comme il n'avait pas réussi à faire entrer le clitoris dans sa théorie, il avait décidé que c'était un organe vestigial, qui était en quelque sorte à reléguer dans les placards de l'évolution, comme le coccyx ou comme l'appendice. Voilà, elle lui reprochait ça.
Donc c'est un texte qui est pris au sérieux par les psychanalystes, très clairement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais aujourd'hui, parce qu'on peut se dire, mais quand même, c'est ridicule. Par exemple, Freud et Ferenczi, psychanalystes très célèbres, vont échanger autour de ce texte. Il faut se rappeler aussi qu'on est au moment du début de la, disons, la chirurgie sexuelle, en tout cas de l'endocrinologie. Donc c'est un texte qui est tout à fait reçu comme légitime. Il y a ce postulat fondamental chez Marie Bonaparte que, au fondement de toutes les questions psychologiques, il y a un problème biologique.
Na comme Napoléon, l'assassin monumental. R comme Roland, l'assassin au petit pied. Ja comme Jack l'éventreur. Ni comme Nina, la grand-mère phallique.
L'organe génital féminin. Les grandes lèvres. Les petites lèvres. Que faites-vous ?
Je prends des notes, ça ne vous dérange pas ?
Non.
Continuez, je vous prie.
Le clitoris, le méa urinaire. L'opération consiste à rapprocher le clitoris du méa urinaire par une suture transversale à ce niveau-là.
Mais le rapprochement est infime. Comment le mouvement du pénis pendant le coït provoquera une jouissance supérieure ?
La sensibilité du clitoris sera sollicitée à chacun des passages du pénis.
Et l'orgasme sera provoqué mécaniquement ?
Oui. C'est physiologique.
A priori, moi, en tout cas, ce que j'en savais, le préjugé que j'avais sur Marie Bonaparte, c'est que c'était la gardienne du temple, une espèce de vestale extrêmement conservatrice et rigide.
Benoît Jacquot, cinéaste, réalisateur du film Princesse Marie.
Pour aller vite, la folle que c'était. Et ça, je dois dire, c'est Deneuve qui me l'a fait connaître. Et c'est elle qui m'a quasiment ordonné, mais avec toute la force d'un vrai désir, elle m'a ordonné de faire ça. Moi, je n'en aurais jamais eu l'idée. Deux, lorsqu'elle m'a demandé ça, j'étais extrêmement perplexe. Et j'ai mis un certain temps à obtempérer.
En vous écoutant, on a l'impression que c'est reproduit de manière enfin l'identique, je sais pas, mais analogue, ce qui s'est produit entre Marie Bonaparte et Freud.
Et c'est marrant.
Puisqu'il était très réticent, il ne voulait pas la prendre en analyse, il était réticent et perplexe. Mmh. Et c'est son désir à elle qui s'est imposé.
C'est très proche, et ce que vous dites là fait pour moi écho avec quelque chose qu'un ami psychanalyste, pour le nommer Jacques-Alain Miller, m'a dit en voyant le film. Et toi, tu es Freud là-dedans.
Et quel était son désir à elle, du coup ?
Son désir à elle, c'était un personnage et donc un rôle qui lui paraissait offrir tout ce qu'elle avait envie de faire, en tout cas à ce moment-là. Je crois que la décision que j'ai très vite prise de traiter les séances d'analyse en longue, de les traiter en plan séquence, en un seul plan, ça l'a bousculé littéralement, parce que Catherine, c'est Catherine Deneuve, c'est pas une actrice qui a l'habitude de prendre les films par scène. Elle travaille de façon répartie ou voire morcelée. On fait un plan puis un autre, un gros plan, ou au pire, disons, de la façon la plus académique, on fait un plan un peu large et puis après on fait des détails, elle peut raffiner, elle peut changer, elle peut faire des trucs comme ça. Mais traiter des scènes qui sont, si je me rappelle bien, les scènes clés du film, où son lien avec Freud se représente, s'exhibe, on a commencé par ça.
C'était atroce, mais j'étais délivrée. Je suis épuisée.
parfois, on s'approchait, on s'éloignait, on était, la caméra était sur un chariot. Parfois, c'était eux qui prenaient en charge le temps. Je leur laissais ces moments-là, et parfois, c'était moi qui faisais des signes le plus souvent à Bennett, pas à Catherine, qui était allongée et vraiment dans une sorte de transe. Alors là, pour Catherine Deneuve, c'est spécial parce qu'on n'imagine pas ça, mais réellement, tout ce temps où on a filmé ces séances, où elle était transportée dans un monde qui n'était pas le sien et expulsée d'elle. Et quand ça s'arrêtait, elle émergeait d'une sorte d'hypnose, sûrement. J'ai même pas besoin, même si j'en connais quelques coins, j'avais pas besoin de savoir à quel gouffre personnel ça correspondait, mais en tout cas, elle mettait manifestement très en écho ce qu'elle faisait en jouant Marie et ce qui pouvait l'agiter, elle, et contrairement à ce que peut penser le public, sauf à être un peu averti de ces choses-là, Catherine Deneuve, elle marche sur des gouffres et elle joue sur des gouffres.
Lettre à René Laforgue. 12 avril 25. Arrivé ici ce matin par une lugubre pluie qui détrempe la terre et l'âme, après une journée et une nuit d'atroce fatigue et sans sommeil. Je voyais défiler les gares nocturnes, les ponts, les champs, et parvenu ici, je ne sens pas l'atmosphère du repos, bien que je doive y demeurer 3 semaines seule, mais plutôt celle du sevrage. Et je plains les bébés dont j'entends quelques-uns hurler lamentablement dans les chambres voisines. Quoi de plus triste d'ailleurs qu'un hôtel, cette maison qui n'est à personne, comme la terre, comme les cieux. Je ne rêve plus rien du tout depuis 4 jours et c'est très triste et ennuyeux. Le sommeil devient aussi plat que la vie, que la pluie qui tombe. Je n'en puis plus et vous envoie mon expirante pensée. Marie.
Alors venons-en à la rencontre peut-être avec Freud justement, on pourrait dire sa deuxième naissance, c'est là une grande césure, hein, elle a 43 ans, donc qu'est-ce qui l'a conduit à solliciter, à essayer d'être pistonné, parce qu'à l'époque où elle rencontre Freud, il est déjà très âgé, il prend plus tellement de nouveaux patients en cure, qu'est-ce qui l'a conduit à, en passant par René Laforgue, à aller jusqu'à Vienne pour entamer une cure analytique donc avec Freud?
Alors, c'est un moment difficile pour elle. Il semblerait que la première partie de sa vie soit quand même assez triste, hein, c'est son enfance. Mais là, c'est particulièrement difficile parce qu'il y a le décès de son père. Il y a toute une série d'éléments qui font qu'elle est probablement en situation de dépression, qui fait qu'elle va chercher des secours dans les thérapeutiques disponibles. Et les thérapeutiques disponibles, là, c'est notamment la psychanalyse. Alors, la psychanalyse, à ce moment-là, en France, est quand même... on peut le dire, plus que balbutiante. Il y a d'abord une forme de résistance en France à la psychanalyse, même s'il y a eu ensuite un engouement formidable. Et il y a peu de thérapeutes. Et parmi les thérapeutes, il y a notamment René Laforgue, qui à ce moment-là, d'ailleurs, lui se rêve comme étant l'émissaire de Freud en France et qui va être détrôné en grande partie par Marie. Et elle demande à Laforgue de jouer le rôle d'entremetteur et de pouvoir un petit peu justifier et corroborer son besoin d'analyse.
La réponse de Freud m'a à la fois comblée et terrifiée. On voit qu'il se méfie atrocement de moi. Il me penserait volontiers une frivole dame du monde, exigeante, insupportable, si votre parole ne faisait quelque peu contrepoids. Voilà ce que c'est que de porter une certaine étiquette sociale. Nul ne peut naturellement deviner avant d'y avoir goûté ce qu'il y a dans la bouteille. La vie m'apparaît atrocement encombrée. Je ne me sens pas à la hauteur pour lui faire face, et les meubles des chambres et les barrières entre les champs sont bien lourds à remuer. Je suis fatiguée, fatiguée. Je voudrais être un tant soit peu barbare, mais je ne le suis qu'au-dedans, ça ne sort pas. Comme la Seine devait être belle, et belle la promenade sur ses eaux, les fleuves s'en vont dans l'inconnu, comme la vie des hommes et de leurs enfants et la vie de nos pensées.
Et elle va donc se rendre à Vienne à plusieurs reprises pour des périodes relativement longues, parce qu'à ce moment-là, l'analyse se fait plusieurs séances par semaine, bien sûr, mais souvent rapprochées. Elle est à l'hôtel à Vienne et elle rencontre Freud. C'est une rencontre assez extraordinaire. Et elle rencontre pas seulement Freud, elle rencontre aussi la famille Freud. Elle devient relativement rapidement une amie de la famille. Et elle va devenir assez rapidement une amie des cercles psychanalytiques. Et va par la suite entamer la carrière qu'on connaît et jouer le rôle d'ambassadrice, on peut le dire, de la psychanalyse en France.
C'était la grand-mère de Marie Bonaparte.
Ma mère on the left and her sister, Minna Bernays.
Donc, des bateaux sur le lac.
Not our house at all, a rented house.
Anna Freud.
Visitors are coming, this is Marie Bonaparte.
Voici Anna Freud.
Voici le premier jour où il fait beau.
Le lac.
Je vous écris dans mon jardin, sous les bruits sans feuillage.
Anna Freud, avec son sourire fabuleux.
My father dressed and reading.
Je lui racontais que je l'ai connue à Vienne quand elle était très vieille et quand elle souriait, elle redevenait comme ça.
Pourquoi avoir jamais besoin de maison ?
Une jeune fille.
Les maisons sont nos ennemis, bien que nos protectrices.
Une fenêtre sur le jardin.
Elle ressemble un peu à nos parents, dont petits nous avons tant besoin.
L'escalier monumental.
Et que pourtant notre inconscient peut rarement souffrir dès l'adolescence et même avant.
Et voilà.
Parce qu'ils sont nos maîtres.
Marie Bonaparte arrive. C'est une grande dame, une robe à fleurs, à jambes longues, avec un chapeau avec une petite plume, un sautoir aux perles qui arrive jusqu'au nombril à peu près, à côté de Anna en tenue beaucoup plus simple. La Parisienne à côté d'Autrichiens. Anna qui ramasse les cerises. Une petite fontaine.
Donc c'est une scène qui nous montre Marie Bonaparte vraiment dans l'intimité de la famille Freud.
Oui, bien sûr. Olaf Freud. Et son chien, le Chouchou.
Elle arrive avec ses falbalas, s'installe au plus grand hôtel de Vienne. Elle a sa femme de ménage, il faut voir le train de vie de Marie Bonaparte. C'est vrai qu'elle avait le goût des vêtements.
Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse.
Magnifique, mais ce qui est étonnant, et c'est que ce n'est pas ça qui est essentiel chez elle. Elle devient immédiatement intégrée à la famille Freud, amie intime d'Anna Freud. Elle prend sous son aile toute la famille. Elle trouve pas seulement Freud, une famille. Et quelle famille ? Vous pensez bien que ça n'a rien à voir, le mode de vie de la famille Freud, modeste, pas très bien habillé, avec ce milieu juif viennois consacré vraiment à l'effort, au travail, la femme de Freud qui s'est occupée de tous ses enfants. Enfin, la maisonnée Freud, c'est complètement antithétique d'une cour royale. Eh bien, elle s'adapte magnifiquement bien à tout ça et elle devient réellement amie. Elle les aime et ils l'aiment. Voilà, c'est une histoire d'amour avec toute une famille.
Voilà Martha et la belle-sœur qui épluchent les haricots apparemment.
J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud.
C'est Marie Bonaparte.
En 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement, tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de jours on croyait que Freud était un personnage bizarre, qu'il ne s'intéressait qu'au problème de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Et je n'oublierai jamais le salon où il recevait ses patients, qui était plutôt son bureau, le divan sur lequel avait été créée l'analyse, sur lequel j'eus également l'honneur de m'étendre, au-dessus de duquel trônait le portrait de Charcot, dont il avait gardé un grand souvenir et pour lequel il avait un grand culte. Freud, d'ailleurs, était un des êtres les plus doux et les plus dénués d'agression et de méchanceté que l'on puisse voir. Il vivait d'une façon extrêmement simple. Il me disait un jour, on dit que les hommes de génie sont insupportables dans leur famille. Demandez à ma famille si je suis insupportable. Je ne dois donc pas avoir de génie. Eh bien, et c'était exact. C'était l'homme le plus dénué de cruauté et d'agression que l'on puisse voir. Il aimait d'ailleurs également beaucoup les animaux. Il avait en particulier de magnifiques chiens Chao qui trônaient au pied du divan pendant les analyses. Et, comme le disait sa fille et lui-même, au moins cet auditeur-là ne révélera pas les secrets du divan analytique. Il aimait beaucoup aller à la campagne. Ses plus grands plaisirs l'été étaient les excursions dans les bois, la recherche des champignons sous les arbres. Il avait un grand sens de la nature et l'amour de tout ce qui était naturel et sain.
Je la vois.
Elle dit, à la même époque, qu'elle est allée chercher auprès de Freud, je cite, le pénis et la normalité orgastique.
La question qu'elle se pose, elle, c'est qu'est-ce que c'est et comment être une femme. Et elle va avoir une compréhension, là aussi, fortement teintée de biologie, puisqu'elle va se considérer comme une femme virile et comme une femme à l'extérieur du corps, mais à l'intérieur, comme étant un homme. De par sa constitution psychique. Ce qui est un des éléments importants pour elle, hein, la question de la bisexualité psychique, avait toujours cette idée chez elle que cette bisexualité psychique fait d'abord référence à une bisexualité biologique, ce qu'on appelle à l'époque l'intersexualité, c'est-à-dire des êtres qui sont entre l'homme et la femme. Alors, chez Freud, il y a quand même un intérêt marqué. Freud est neurologue, Freud est tout à fait intéressé par l'évolutionnisme, mais sa théorie ne se résume pas à ça. Et il a toujours le talent de savoir mêler différents niveaux. À nouveau, Marie, elle, quand même, on a l'impression que autant dans son texte sur Edgar Poe que dans son texte sur la sexualité de la femme, que dans ses textes autobiographiques, à la fin, c'est l'anatomie le destin, quand même. Il y a quand même cette idée-là qui effectivement ne va pas forcément être partagée par la majorité des psychanalystes. D'ailleurs, un des éléments là qui va être marquant pour la France, ça va être cette idée, notamment autour de Jean Laplanche, hein, qui est un liaison de Lacan, un célèbre théoricien de la psychanalyse. Tous les aspects biologisants de Freud, il appelle ça le fourvoiement biologisant de Freud. Comme si Freud avait dû être neurologue pour dépasser ensuite et accéder peut-être à une forme de vérité plus adaptée, plus juste, car n'étant pas positiviste.
La psychanalyse s'est implantée très tard en France. Première société psychanalytique 1926, en partie grâce à Marie Bonaparte. Et donc, il a laissé tomber la France. La France, pour Freud, ça a été son voyage en 86 à Paris, où il rencontre Charcot. Ensuite, le mouvement psychanalytique, il est anglophone, il est aux États-Unis, il est dans toute l'Europe, il est allemand, de culture allemande. La France, c'est une hostilité totale. Et puis, il n'y a pas eu de société psychanalytique. Il n'y a pas de maître à penser. En France, à cette époque-là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas l'équivalent de Ferenczi en Hongrie, de Ernest Jones en Angleterre. Il n'y a rien. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que ce sera du coup Marie Bonaparte, oui. L'étincelle ?
Oui. Oui, Marie Bonaparte, ça va être l'étincelle. Il y a évidemment René Laforgue, qui est le pionnier, mais qui ne fait pas le poids. De toute façon, il n'y a pas de mouvement psychanalytique français avant l'arrivée de Lacan. C'est d'ailleurs pour ça que Lacan va occuper cette place. Marie Bonaparte a une place historique parce qu'elle met toute sa fortune au service du mouvement psychanalytique. Et donc, elle va créer les institutions françaises de la psychanalyse grâce à sa fortune. Donc, elle installe la France au cœur du mouvement psychanalytique international.
C'est à titre de seul membre fondateur, ici présent, de la Société psychanalytique de Paris.
Et son rôle est souvent limité effectivement à un rôle financier ou à un rôle d'ambassadrice au sens symbolique du terme, mais c'est quand même elle qui traduit avec des gens, parce qu'elle s'entoure en fait de personnes, notamment sa secrétaire Anne Berman qui joue un rôle extrêmement important dans sa vie, et à elles deux plus quelques autres, elles vont coordonner la majorité à ce moment-là des traductions de Freud, et donc elles vont participer à finalement produire ces textes et produire ce qui va être le matériel de la formation des futurs psychanalystes.
Je trouve qu'elle a bien traduit Freud, contrairement à tout le monde. Je trouve que c'est une bonne traductrice. D'abord, elle a traduit. Alors ça, en effet, c'est son œuvre. Gallimard avait ouvert la traduction des œuvres de Freud. Elle avait mis en chantier ça, avec d'autres, hein, d'ailleurs. Et moi, je fais partie des gens qui ont été élevés dans les premières traductions de Freud, que je trouve bien meilleures que les autres. Mais ce qui est le mieux comme traduction de Freud, c'est les traductions de Marie Bonaparte et de son équipe, Anne Berman, révisées. Et surtout, elle a beaucoup travaillé à faire connaître l'œuvre de Freud, à la faire traduire. Ça, c'est tout à son honneur. Marie Bonaparte a été dans ce domaine-là une pionnière de la traduction.
Et c'est à ce moment-là que lui naît l'idée de son grand œuvre, vraiment, parce qu'elle a beaucoup écrit. C'est avant tout une femme de lettres, Marie Bonaparte. Elle a d'autres qualités, et notamment un grand sens politique. Elle y travaille à son... Elle appelle ça, alors, on a beaucoup brocardé là-dessus, parce qu'elle reprend une expression dans une lettre de Virginia Clemm, qui était... la jeune épouse d'Edgar Poe, une des femmes qu'il a aimées, le pauvre Eddy. Donc elle écrit sur son pauvre Eddy, auquel elle s'identifie totalement.
Edgar Poe qui avait perdu sa mère à 3 ans.
2 ans et demi, absolument. L'orphelinat d'Edgar Poe et l'orphelinat de Marie Bonaparte les rapprochent. Ils ont beaucoup d'autres points communs, mais en tous les cas, le point de départ, c'est leur douleur d'orphelin.
Je suis bien. Qu'est-ce que tu as écrit ?
Un livre sur Edgar Poe. Il faudrait que ce soit mon chef-d'œuvre. Tu pourrais être une héroïne d'Edgar Poe.
Elles dorment ?
Non, elles sont mortes. Revenantes. Comme nous toutes, d'ailleurs.
Et elle oublie Edgar Poe, elle y retravaille à un moment de son analyse, et elle a toutes les qualités requises pour écrire ce bouquin. De fait, c'est un ouvrage qui est assez... on ne sait pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Cependant, il ne donne pas envie d'ouvrir Edgar Poe. Vous voyez ? Autant lorsqu'on lit la façon dont quand Freud s'y applique. Et il répond en ça, d'ailleurs, à une consigne qu'avait donnée Jung très, très tôt, vers 1905. Sa consigne, c'était de ne pas se limiter aux 4 patients, mais de s'ouvrir à la littérature, aux hommes illustres, etc. Et tout le monde s'y colle. Le pasteur Pfister s'y colle, Otto Rank s'y colle, avec Don Juan, La Forgue va s'y coller au sujet de Baudelaire, il va s'y coller ensuite après-guerre avec Talleyrand. Enfin, il y a toute une série qui s'appelle la psychobiographie, qui va accompagner les textes sur les concepts de la psychanalyse. 1931, elle a terminé. Elle l'envoie à Freud, qui est très content. 1933, c'est quand même la prise du pouvoir par Hitler, 31 janvier 1933, c'est quand même l'exil des psychanalystes allemands et autrichiens. En 1933, elle a, tant elle que Freud, ils ont d'autres soucis. Freud ne fera plus jamais de préface ensuite. Il en fera juste une dernière en 1937, toujours à Marie Bonaparte, sur un petit ouvrage qu'elle avait fait en hommage à son chien qui était mort d'un cancer. Bon, en fait, c'est Anna Freud qui va le traduire, mais lui fera vraiment juste une petite préface. Bon, puis ensuite, c'est les questions de comment le faire sortir d'Autriche qui prennent le dessus.
My name is Sigmund Freud.
Oh, and that is a crowd cheering Hitler. Look at the crowd. The crowd, that's how it looked. That's some stranger. Now emigration. We left Vienna by a night train and spend a day of rest in Paris, on that terrace, on top of the princess's house. My father was very tired from the trip and rested. That's a her husband, Prince George. But it was a beautiful day in Paris.
Oui, c'est un épisode qui est effectivement extrêmement célèbre parce qu'il vient incarner le dévouement de Marie à la fois pour la psychanalyse et pour la figure de Freud. Elle paye la rançon et plus précisément elle avance l'argent. Cet argent va être donné au régime nazi et cette rançon va permettre à Freud de quitter effectivement Vienne, alors que Freud au début, on sait, veut rester. C'est un vieux monsieur qui habite dans son appartement au 19 de la rue Bergasson, probablement son univers. On peut imaginer voilà, toute sa vie, une bonne partie de sa vie en tout cas, il l'a fait là et il est conscient qu'il est malade, il a son cancer de la mâchoire, il est à la fin de sa vie et il constate sûrement de manière assez amère que les choses sont en train de changer et on peut comprendre aussi son point de vue, pourquoi vouloir quitter Vienne à ce moment-là après tout. Et Marie va réussir à le convaincre, mais aussi qui va le convaincre, ce qu'on rapporte souvent, c'est aussi que sa fille Anna va être interrogée par la Gestapo et il se rend compte que finalement ce n'est pas que lui qui est en danger à ce moment-là, mais c'est tous ses proches.
À l'âge de 82 ans, j'ai quitté à la suite de l'invasion allemande ma maison à Vienne et suis arrivé en Angleterre où je compte terminer ma vie en pleine liberté.
Donc en septembre 39, c'est la mort de Freud, Freud qu'elle installe à Londres, hein, qui va juste avoir le temps de reconstituer son cabinet viennois et qui va mourir là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la période de la guerre, hein, pour Marie Bonaparte, qui précisément est à milieu de l'évolution de la France à la France officielle, disons, à cette époque.
Alors, la société psychanalytique de Paris ferme, elle participe à la faire fermer, simplement parce que une bonne partie des acteurs ne sont plus là, certains restent. Mais il va y avoir, à la sortie de la guerre, une épuration aussi dans les milieux psychanalytiques. Qui a collaboré? Qui a résisté? C'est des questions qui ne sont pas spécifiques de la psychanalyse, mais qui vont aussi se poser chez les psychanalystes. Marie Bonaparte a, elle, eu une position extrêmement claire.
Jamais le moindre compromis chez Marie Bonaparte avec quoi que ce soit, du pétainisme, du nazisme, tout ça. Elle est radicale. Elle sauve la France de la collaboration, alors que René Laforgue va se vautrer dans la tentative de faire un institut français de psychanalyse arianisé. Il va tenter la collaboration. Marie Bonaparte a tout fermé, donc ça sauve le mouvement psychanalytique de toute forme de collaboration. Mais elle part, elle s'en va, elle émigre. Mais après 1945, l'ancien freudisme est atteint de sclérose complète. Et la lecture de Lacan, la rénovation, et pas seulement Lacan, l'agage tout le mouvement psychanalytique français, au fond, il naît réellement de façon novatrice à partir de 1945. Alors que ce soit Lacan qui va dominer, bien entendu, tout le mouvement, mais aussi les gens de sa génération. Lagache, qui va introduire la psychanalyse à l'université, puis tous les élèves qui sont formés. C'est plus du tout le même monde. Parce qu'ils disent qu'il faut relire les textes de Freud autrement. Donc, l'approche philosophico-psychiatrique par Lacan, approche universitaire, mais par Marie Bonaparte est un autre monde. Et comme elle est toujours une combattante, elle combat toute la jeunesse. Et la nouvelle génération, pour elle, que ce soit Vladimir Granov, Serge Leclerc, ils avaient tous connu Marie Bonaparte, quelles que soient les tendances, pas forcément ceux qui étaient lacaniens, voyaient une vieille dame,
je la vois,
réactionnaire, antimoderne, qui voulait tout empêcher, qui se prenait pour Freud, qui voulait tout régenter. Et c'est évident que c'est vrai.
Dans ma génération, on se moquait de Marie Bonaparte, qui commençait toujours ses phrases par Freud m'a dit que, et c'est elle, voilà. C'était donc elle, la correspondante directe du maître. Voilà.
Elle l'appelait son père dans la correspondance, avec un P majuscule.
Oui. Donc elle s'est battue. non seulement pour que l'orthodoxie de la psychanalyse, après elle s'est aussi battue pour que les non-médecins puissent devenir psychanalystes, comme Freud le pensait, etc. Enfin, elle s'est souvent battue pour ce que je considère une bonne orthodoxie de la psychanalyse.
Elle ties out. Et c'est vrai, c'était avant tout une femme libre. Et pour conduire ses troupes, elle revendique d'ailleurs elle-même. Elle dit, mais oui, je suis dictatoriale, c'est comme ça.
Ce qui n'a rien de choquant en réalité.
Mais absolument pas. Freud l'était, elle le revendiquait comme tel. Enfin bon, elle avait, par rapport à la dispersion comme ça, puisque c'était quand même une génération de pionniers, tout le monde partait dans tous les sens, il le fallait, elle maintenait le cap.
So caluos tu balcone, so minuto per cantare, e rivino mio amore, venite per ascoltare, alla sola alla mezzanotte, sta dormente la città, e così bella stanotte.
Ma enfin, il y a beaucoup d'ombre, hein. Ce qui revient, effectivement, c'est l'ombre. Qu'est-ce qui revient dans une analyse? C'est toujours l'ombre.
C'était Une vie, une œuvre, Marie Bonaparte, princesse pionnière de la psychanalyse. Un documentaire d'Hélène Frappa, réalisé par Angélique Thibao. Avec Rémi Amouroux, Jean-Pierre Bourgeron, Elisabeth Roudinesco, Benoît Jacquot, Thierry Florentin, Alix Lemel. Extrait de Princesse Marie de Benoît Jacquot avec Catherine Deneuve. Texte lu par Gaïta Le Boissetier. Archivina Linda Simon. Prise de son Hélène Longlois. Attachée d'émission Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko.
Caro a me, solamente una volta, che lo fossi venuto per me. Maria, se vuoi dormire, su miati che vi bacio, verrà dolci scusono, cantando piano piano. Parfume di le rose, chi mi confonde tu, come canto si perde, fra le ronde.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à l'artiste-poète Robert Filliou.